cette compassion et ces prières du souverain pontife pour les victimes de la tuerie de Graz en Autriche.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
Dominus vobiscum.
Et in spirito tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex ut nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Viva il Papa.
Voilà, le souverain pontife va désormais saluer sur le parvis les différents cardinaux et évêques, archevêques présents à cette quatrième audience générale de son pontificat. Le pape qui a développé les paraboles de guérison sur Bartimée, qui a développé sa catéchèse, la centrée sur les guérisons ce mercredi. N'hésitez pas à présenter au cœur du Christ vos douleurs, vos fragilités, les aspects de votre vie où vous vous sentez bloqué et immobilisé. Demandons avec confiance au Seigneur d'entendre notre cri, a exhorté ce mercredi Léon XIV. Invitant bien sûr à l'espérance et à se départir de nos conforts et fausses sécurités. Toutes les informations dans quelques minutes sur vaticannews.va. Merci d'avoir suivi avec nous cette retransmission en direct de la quatrième audience générale de Léon XIV. Nous étions en direct depuis les locaux de Radio Vatican à Rome. Très belle journée à tous. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ.
Vous écoutez KTO Radio.
L'agenda.
3 jours pour se former et aborder les fondamentaux de l'Église catholique dans un cadre agréable et convivial. C'est la proposition mise en place par le diocèse de Besançon pour son université d'été. Rendez-vous est fixé le 5 au 7 juillet au foyer Sainte-Anne de Montferrand-le-Château. Il faut pour cela choisir un parcours de formation parmi une dizaine de propositions et le suivre pendant les 3 jours. Il y a par exemple un parcours sur le Concile Vatican II ou alors sur le Credo ou encore comprendre la rédaction des différents livres de la Bible. Informations et inscriptions sur le site du diocèse, diocèse-besançon.fr ou auprès du service diocésain de formation à l'adresse mail formation.besançon@icloud.fr. C'est la saison des festivals et pour les jeunes catholiques d'Île-de-France, il y a la 2e édition du Maranatha Festival, 24 heures de joie et de partage auprès de la Vierge Marie. Il a lieu le 28 et 29 juin sur le site de Notre-Dame de France à Baillet en France, dans le Val d'Oise. Conférences, témoignages, adorations et temps de prière sont au programme. Et bien sûr des concerts avec comme artiste phare le groupe Open ou encore les Guetteurs. Informations sur internet ou sur Instagram, Maranatha avec un H entre le T et le A, point festival. Et on termine par Versailles et le mois consacré à Molière qui s'anime tout le mois de juin dans la ville royale. Et c'est dans ce cadre que le chœur de la cathédrale Saint-Louis organise ce jeudi 12 juin à 20h30 un concert classique autour de la messe solennelle de Louis Vierne, composée à la suite de sa nomination comme organiste titulaire de Notre-Dame de Paris en 1901. Un concert réalisé notamment avec le grand orgue historique de la cathédrale Saint-Louis, restauré tout juste en janvier dernier. Participation libre et informations à retrouver sur le site du diocèse de Versailles.
Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet. Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction l'ouest de la Bourgogne, dans la Nièvre, pour parler du diocèse de Nevers et découvrir son nouvel évêque. Dans cette édition, nous irons au sanctuaire de Nevers, justement, où repose Sainte Bernadette Soubirous, l'occasion de constater le rayonnement universel de celle qui fut béatifiée il y a 100 ans exactement. Et on entendra le témoignage du dernier prêtre ordonné pour le diocèse en juin 2024, le père Florent Ringeval. Département rural de Bourgogne, la Nièvre bénéficie de magnifiques paysages vallonnés, marqués par forêts et vallées et par la zone montagneuse du Morvan, un territoire qui fait face à une population en baisse et vieillissante, mais dont la relative proximité avec Paris en fait un refuge parfait pour les candidats à l'exode urbain. Et pour parler du diocèse de Nevers, je reçois pour la première fois son jeune évêque, Monseigneur Grégoire Drouot. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Honorine.
Bienvenue pour la première fois sur le plateau de KTO. Merci d'être là. Je viens de présenter ce territoire de la Nièvre. On va parler de votre découverte du diocèse, mais pendant que s'affichent les chiffres clés du diocèse, comment est-ce que vous pourriez nous présenter cette église catholique dans la Nièvre, la Nièvre qui comprend presque 200 000 habitants?
Exactement, 200 000 habitants et une communauté chrétienne vivante, même si elle est marquée par ce département et par une forme de décroissance. Il n'en reste pas moins que je fais la connaissance de communautés paroissiales très, très ferventes, enthousiastes, à la mesure d'un petit département rural français.
On va parcourir avec vous quelques-unes des réalités de ce diocèse. Au début de cette émission, quelques dates pour découvrir votre parcours, Monseigneur Grégoire Drouot, pour ceux qui n'ont pas vu votre portrait d'évêque, puisque vous êtes évêque du diocèse de Nevers depuis un an. Né en 1976 à Vénissieux dans le Rhône, vous avez été ordonné prêtre en 2007 pour le diocèse d'Autun. Vous avez commencé votre ministère au pied des HLM à la paroisse de Chalon-sur-Saône, avant d'être vicaire ensuite en paroisse à Paray-le-Monial, responsable de la pastorale des jeunes. Alors je passe, les années passent, puisque de 2018 à 2024, vous avez été vicaire général du diocèse d'Autun, accompagnant notamment la dynamique Église verte. Et vous avez pris comme devise épiscopale un verset de l'évangile de Marc au chapitre 10, « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Alors ma première question, elle est très simple et on l'attend. Un an après votre ordination épiscopale, comment se passent vos premiers pas dans la Nièvre en tant qu'évêque ?
Très bien, c'est une grande joie de découvrir ce ministère épiscopal au cœur de ce diocèse. Il faut un peu de temps pour prendre la mesure de ce ministère épiscopal, mais je dois dire que l'accueil a immédiatement été très très chaleureux, et que je continue de commencer en quelque sorte, puisque là je viens de démarrer une série de visites pastorales qui vont être l'occasion d'une découverte en profondeur de ce territoire, des personnes qui vivent et qui le font vivre, en même temps que l'occasion d'un soutien des communautés chrétiennes.
Qu'est-ce que vous découvrez sur ce territoire qui vous est confié ? Qu'est-ce qui vous marque particulièrement ?
Alors, ce qui me marque, c'est que la vie chrétienne n'est pas concentrée à Nevers, qui est l'agglomération de la Nièvre, mais une vie chrétienne qui est diffuse dans toutes les paroisses, encore une fois, dans tous les territoires, aussi bien le Morvan, qui est un territoire le plus oriental de montagne, le Bazois au centre de la Nièvre, une terre de culture, et puis la vallée de la Loire, qui est économiquement la plus dynamique. Et en chacun de ces lieux, il y a des petits foyers très très vivants, très très ardents, qui continuent d'annoncer l'Évangile.
On est habitué, mais en fait, quand on est prêtre, enfin, on est habitué, nous, baptisés, un prêtre qui est ordonné dans un diocèse, incardiné dans un diocèse, bah, quand on est appelé par le Saint-Père à devenir évêque, on est arraché à cette terre pour aller dans une autre terre. Comment ça se passe, cette nouvelle alliance avec un peuple ?
C'est vrai que c'est une découverte d'une nouvelle famille ecclésiale. Culturellement, ça n'a pas été un chamboulement trop important, puisque je venais du diocèse voisin d'Autun. J'ai franchi simplement les collines du Morvan pour arriver dans la Nièvre, donc j'ai pas été trop perdu. C'est pas comme si j'avais été nommé sur la côte méditerranéenne ou dans le nord de la France. Cela dit, il faut retisser des amitiés, il faut prendre le temps d'écouter, de connaître, d'entrer aussi dans une histoire sainte. Et avec cela, la nouveauté permet aussi, je trouve, une certaine liberté.
J'ai cru comprendre aussi que vous parcourriez la Nièvre à moto, puisque ça fait partie de vos loisirs, de vos moments de détente. Qu'est-ce que ça permet, justement, ces moments en moto ?
Alors, ça permet un petit sas de contemplation, parce que la campagne nivernaise est magnifique, et j'aime la moto précisément pour ça, pour me laisser comme immergé dans cette
nature. Je vous ai même vu sur un circuit, il me semble, une photo, vous étiez sur un circuit.
Ah oui, bravo. J'étais allé chercher très loin. Mais oui, ça c'était une expérience unique, qui ne s'est pas reproduite, mais qui a été très heureuse. Mais habituellement, de parcourir comme ça la campagne nivernaise, c'est vraiment un temps de détente, de contemplation, de consonance avec cet environnement si beau. Et puis c'est vrai que ça suscite aussi un peu de curiosité dans les communautés que je rencontre.
Mais c'est original, on va dire ça. Je le disais en introduction, cette année 2025 est l'occasion de commémorer le centenaire de la béatification de Bernadette Soubirous. Alors que la sainte est associée à Lourdes, c'est en réalité à Nevers qu'elle repose dans la chapelle de l'ancien couvent des Sœurs de la Charité. Et à l'occasion de ce jubilé, nous avons voulu mieux connaître ce sanctuaire phare de la Nièvre et voir comment la figure de Bernadette Soubirous rayonne aujourd'hui encore. C'est un reportage d'Arnaud Paillard.
Ce n'est pas à Lourdes, mais bien à Nevers, dans l'ancien couvent Saint-Gildard des Sœurs de la Charité, que repose, dans une châsse de verre, le corps de Sainte Bernadette. C'est dans la maison mère de cette congrégation hospitalière que la voyante de Lourdes a passé la fin de sa vie, de 1866 à 1879. Près de 200 000 pèlerins et visiteurs se rendent ici chaque année. Et aujourd'hui, c'est un groupe venu d'Alsace que nous retrouvons. Ils s'apprêtent à découvrir la richesse des lieux à travers le parcours spirituel sur les pas de Bernadette que propose le sanctuaire.
Alors, on est venu pour décompresser déjà. Et chaque année, on revient pour vivre ça avec des amis, en famille. Et chaque année, c'est différent. Et on a hâte que l'autre année recommence.
Leur guide est sœur Suzanne, l'une des sœurs de la charité de Nevers. Tous les jours de l'année, elle retrace avec les visiteurs les étapes de la vie de Sainte Bernadette au couvent, en tentant d'incarner au mieux le charisme de Jean-Baptiste de Lavenne, le fondateur de la congrégation, tourné vers le soin des plus pauvres.
Alors ici, les gens sont poussés par une soif, un désir de trouver un sens à leur vie, d'affronter aussi les questions essentielles. Donc on a des personnes de tout horizon, de toute nationalité, qui vient ici pour se ressourcer.
Certains visiteurs viennent de beaucoup plus loin. En route pour le pèlerinage militaire international de Lourdes, ces pèlerins venus de Côte d'Ivoire ont tenu à faire étape à Nevers pour la première fois, afin de se recueillir auprès de Sainte Bernadette Soubirou.
Ce que je peux retenir, c'est l'humilité. L'humilité. Que surtout la sœur Marie Bernard, Sainte Bernadette, a vécu. Une parole forte qu'elle a dit. Pour que je dégonfle mon cœur, pour que je puisse ouvrir totalement à la grâce du Seigneur. Et ça, ça m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup touché.
Christophe Goubier est le directeur de l'espace Bernadette depuis 8 ans. Sa mission, moderniser le site pour continuer à accueillir des pèlerins du monde entier et garantir la pérennité du sanctuaire.
C'est un petit site en comparaison d'un Lourdes ou d'un Lisieux, mais c'est un gros site par rapport à d'autres petits sanctuaires. Alors ma priorité quand je suis arrivé, c'était de monter un projet pour arriver à rentabiliser les lieux mieux. Le plan était très simple, on travaillait sur les bâtiments, sur les jardins et sur les hommes. Utiliser mieux les bâtiments, donc faire des chambres de meilleure facture, donc ce qui a été fait à mon arrivée, et puis mieux utiliser les jardins pour être un peu plus lourdate aussi et arrêter de payer des salariés pour tondre des pelouses. On a lancé toute une séquence de cultures de plantes aromatiques et médicinales.
Depuis 2 ans, l'espace Bernadette accueille également 20 mineurs isolés et doit en accueillir 2 fois plus dès cette année. Une initiative qui perpétue, aujourd'hui encore, la mission de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers.
Alors, on a pu mieux connaître ce sanctuaire de Nevers. On voit bien que la mission de ce sanctuaire, de l'espace Bernadette, dépasse largement le rayonnement de Sainte Bernadette Soubirous. Il y a beaucoup de volets dans ce lieu.
Ah oui, c'est un lieu très beau, central, pour la vie du diocèse et pour la ville de Nevers. Et on le constate bien dans le reportage, il y a des groupes très nombreux qui viennent, et alors particulièrement actuellement, au printemps et l'été, des groupes très nombreux qui viennent du monde entier parce que Bernadette continue d'attirer. C'est assez paradoxal, cette petite jeune fille des Pyrénées, toute simple, qui n'a jamais cherché à attirer quiconque, et bien dans cette simplicité, elle fait du bien. Et on entendait ce prêtre ivoirien parler du cœur que nous avons besoin de dégonfler. Ben c'est ce que Bernadette nous apprend à vivre en venant simplement là prier dans ce lieu.
On voit aussi donc le développement d'un jardin, de Laudato Si mise en œuvre sur dans les espaces verts, l'accueil également de mineurs non accompagnés. Mmh. Ça fait partie de toute l'actualisation du message de Bernadette.
Je pense que tout se tient, effectivement. Alors, ce jardin avec ses plantes, c'est même une initiative de Bernadette, il y a fort longtemps, puisqu'elle était aide infirmière
et oui,
elle préparait elle-même les potions, les onguents, enfin tout ce qui permettait de soigner les sœurs. Et donc, elle cultivait quelques plantes. Donc aujourd'hui, cette culture continue. Quant à l'accueil des mineurs non accompagnés, c'est un très beau projet mené avec le conseil départemental. Et c'est aussi une manière, je crois, pour les sœurs d'actualiser leur charisme. Elles ont été hospitalières, elles ont pris soin des petits, des pauvres. Aujourd'hui, ces petits et ces pauvres, ce sont aussi ces jeunes migrants qu'elles accueillent, enfin que l'espace Bernadette accueille pour les aider à bien grandir sur cette nouvelle terre de France.
Monseigneur Grégoire Drouot, quelques mots sur des réalités importantes du diocèse de Nevers. Il y a par exemple les fraternités missionnaires de proximité qui sont mises en œuvre dans le diocèse. Alors qu'est-ce que c'est ?
Alors, il se trouve qu'il y a quelques années, à l'occasion de la réflexion synodale, des équipes s'étaient constituées dans la Nièvre et une des perspectives était la fondation de ces fraternités missionnaires de proximité que Mgr Thierry Braille de la Perrière a beaucoup encouragé. Et j'arrive avec la joie de constater l'existence de ces petites fraternités qui regroupent souvent 5, 6, 7 personnes. Plusieurs existent au sein d'une même paroisse et elles se retrouvent mensuellement pour d'abord écouter la parole de Dieu ensemble, écouter aussi l'Esprit Saint dans une forme de conversation spirituelle. Et dans ce soutien mutuel éclairé par la parole, eh bien, discerner aussi quelles actions proposer localement pour que l'Évangile soit annoncé.
Avec cette conversation dans l'esprit, on pense bien sûr au processus synodal. Les conseils pastoraux paroissiaux sont aussi des lieux de synodalité.
Exactement, et c'est aussi le fruit de la réflexion synodale que d'avoir cherché à remettre en valeur ces conseils pastoraux paroissiaux. Et je constate au cours de mes visites qu'ils ont été mis en place dans bon nombre de paroisses et qu'ils sont le lieu de la synodalité, où des hommes et des femmes de générations différentes, d'expériences différentes, attachées à l'Église d'une manière ou d'une autre, se mettent là aussi à l'écoute de l'Esprit pour que la mission vive.
Pour les quatre diocèses de Bourgogne, il y a aussi une école provinciale pour la mission qui a été créée. Et vous avez voulu envoyer pour la première fois une dizaine de chrétiens de la Nièvre. Dans quel but ?
Alors, justement, en essayant de favoriser beaucoup la formation des laïcs pour leur permettre aussi de prendre une responsabilité mieux située, mieux reconnue au sein des paroisses et de constituer avec d'autres et avec les prêtres cette petite cellule capable de porter l'annonce de l'Évangile.
Parce que là, c'est une promotion pour des chrétiens qui vont ensuite avoir une mission particulière.
C'est ça, c'est un petit peu l'enjeu. En fait, cette école a été créée il y a 2 ans, c'est la première promotion là, qui s'achève bientôt au mois de juin, à l'appel, disons, du pape François lorsqu'il a proposé les ministères de lecteurs d'acolytes et de catéchistes pour tout baptiser. Et nous nous sommes dit mais qu'il était important de former des hommes et des femmes pour discerner avec eux à quel type de mission ou de ministère ils pourraient être ensuite appelés.
On va maintenant parler d'un des jeunes prêtres de la Nièvre, puisque le père Florent Ringeval a été ordonné il y a presque un an, le 23 juin 2024, en la pro-cathédrale Saint-Étienne de Nevers, à tout juste 26 ans. Il est désormais vicaire à la paroisse de la Sainte-Famille et il a accepté de partager avec nous les défis et les joies d'un jeune prêtre officiant au centre-ville de Nevers. On l'écoute.
J'ai découvert le Christ par ma grand-mère qui m'a emmené avec elle à la messe. Voilà, tous les dimanches, c'était pour elle un lieu important. Moi, j'ai été baptisé par tradition, mais elle m'a fait découvrir cette rencontre avec le Christ. Et la question est venue à l'âge de 8-9 ans de donner ma vie au Christ comme prêtre. La réalité de la mission dans notre diocèse est un peu large. Alors moi, je suis vicaire au centre-ville, dans la paroisse de la Sainte-Famille, une paroisse avec des profils différents dans la paroisse. Et les défis sont un peu, surtout le besoin d'accompagner les gens. Je me rends compte que les gens ont besoin d'avoir un lieu pour être écoutés, pour pouvoir poser aussi leur vie, leurs difficultés de parcours aussi. J'accompagne aussi beaucoup les jeunes. Alors pareil, beaucoup de jeunes sont un peu abîmés par la vie et pourtant cherchent à mettre Dieu au cœur de celle-ci en essayant de le trouver, de le rencontrer. Pour être prêtre, il n'y a pas besoin d'un modèle fixe. Au contraire, le Seigneur veut qu'on mette nos talents, chacun au service de l'Église, et donc il ne veut pas qu'on soit tous configurés comme des clones. Voilà. On reste nous-mêmes, et le Seigneur nous prend et il nous connaît le fond de notre cœur et veut que nous servions l'Église avec ce que nous sommes.
Il n'y a pas beaucoup de prêtres dans le presbytérium du diocèse de Nevers, mais vous avez célébré justement l'ordination du père Florent quelques jours après votre ordination, votre propre ordination. Et une autre est prévue à la fin du mois, cette année. Ce sont des motifs d'espérance, j'imagine, pour l'évêque que vous êtes.
Ah bah oui, des motifs d'espérance merveilleux et vraiment une grande joie. Il se trouve que Florent, donc, qui a été ordonné l'année dernière, que nous venons de voir à l'écran, et Baudouin, qui sera ordonné très bientôt, sont tous les deux entrés en propédeutique à Paray-le-Monial à l'époque où j'y étais formateur, donc je les ai
vous
rencontrés
les connaissiez.
Là.
Excellent.
Et quelques années plus tard, sans bien sûr l'avoir jamais imaginé, me voilà à Nevers pour les accueillir tous les deux comme prêtres. Et bien sûr, alors c'est une joie pour moi, et c'est surtout une joie pour l'Église diocésaine d'accueillir deux jeunes prêtres. C'est pas rien dans un presbytérium qui, comme vous le disiez, n'est pas très nombreux.
Comment est-ce que, comme évêque, vous qui avez été aussi vicaire général dans votre mission précédente, comment est-ce que vous imaginez l'accompagnement de ces jeunes prêtres avec tous les défis qui les attendent?
Alors, pour le moment, et pour Florent et pour Baudouin bientôt, j'ai choisi de les inscrire dans le travail provincial d'une petite équipe de jeunes prêtres. Donc ils retrouvent d'autres jeunes prêtres de la province, spécialement du diocèse d'Autun, pour des rencontres régulières. Ça, c'est à mon avis important. Et puis, important aussi la formation. Et donc, je souhaite qu'ils puissent continuer de se former pour être des hommes et des prêtres suffisamment solides et assurés dans leur ministère. Et puis, il y a aussi tout ce qui se joue au sein du presbytérium. Et je suis très heureux de constater qu'ils ont été très bien accueillis par des prêtres plus âgés, également par des prêtres fidèles de nous qui sont présents dans la Nièvre. Donc tout cela contribue, je pense, ainsi que la mission qui leur est confiée, la toute première mission, et pour Florence, ce ministère en paroisse et au sein de l'enseignement catholique. Tout ça contribue, je pense, à la formation de leur être sacerdotal et à la joie de servir.
Vous le disiez tout à l'heure, la vie chrétienne, évidemment, n'est pas concentrée à Nevers. Comment est-ce que l'Évangile est annoncé dans les paroisses rurales? Est-ce qu'il y a une façon particulière d'être catholique quand on habite dans le rural, dans la Nièvre?
Alors certainement, ça je le découvre précisément à l'occasion de ces visites pastorales là qui ont démarré. Ce qui me frappe, c'est que évidemment dans les paroisses rurales, les distances sont un défi. En ville, c'est très facile de circuler et on peut même choisir sa paroisse.
Les distances et le temps nécessaire pour parcourir les kilomètres.
Exactement, pour aller d'un lieu à l'autre. Ça, et c'est en ce sens que les fraternités missionnaires de proximité dont nous parlions sont des relais de vie chrétienne et de vie spirituelle qui me semblent importants, surtout dans ces paroisses rurales. Mais je constate aussi une vitalité étonnante et une audace, une inventivité dans certaines des paroisses que j'ai visitées qui m'émerveille. Parce que on pense parfois que les simples dynamiques humaines sont absentes dans le monde rural et c'est pas tout à fait vrai. Il y a des lieux qui sont pleins de vie et donc je suis heureux que les communautés chrétiennes puissent être présentes aussi pour accompagner cette vie-là.
Vous avez recruté cette année une nouvelle personne en responsabilité de la pastorale des jeunes. Mmh. Vous avez été responsable de la pastorale des jeunes précédemment. Quelles sont un peu les particularités, les rendez-vous forts pour les jeunes dans la Nièvre?
Alors, l'année dernière est née dans le diocèse une proposition qui existe dans d'autres diocèses, le PLVTT, et ça a été un très très beau succès. Donc nous allons proposer de nouveau cet été le PLVTT. Il existe également une école de prière pour les enfants et pour les jeunes. Ça c'est une proposition qui me tient à cœur parce que je crois beaucoup à l'importance de la formation à la vie intérieure et à la vie spirituelle dès le plus jeune âge. Et puis, cette personne que vous évoquez, responsable de la pastorale des jeunes, s'attache aussi à soutenir les initiatives locales pour que les jeunes puissent vivre quelque chose, non seulement
quotidienne.
À l'échelle diocésaine, mais aussi là où ils sont.
Monseigneur Grégoire Drouot, on va maintenant passer à la dernière séquence de cette émission, les questions de terrain. Et on commence avec une première question de Johanna de la paroisse de la Sainte-Famille.
Bonjour Monseigneur, pouvez-vous nous décrire une journée quotidienne de votre vie d'évêque?
C'est une grande question. Il n'y a pas deux journées qui se ressemblent vraiment, mais on peut quand même dire que chaque journée commence par la prière. Bien sûr, la célébration de l'Eucharistie. Et puis chaque journée comporte à la fois un travail de réflexion et d'écriture. Ça m'a beaucoup frappé en entrant dans ce ministère de découvrir que la parole de l'évêque est attendue. Et donc, c'est une parole qu'il faut petit peu préparée. Et ça, ça me demande un peu de temps chaque jour. Et puis également les rencontres, chaque jour des rencontres très différentes, aussi bien au sein de la maison du diocèse avec les collaborateurs proches, mais aussi avec ceux et celles qui demandent un rendez-vous ou les groupes qui attendent aussi une rencontre avec l'évêque.
Donc l'évêque ne passe pas sa journée à célébrer la messe dans la cathédrale, comme pensent parfois certains jeunes.
Non.
On a une autre question de Marie-Madeleine, qui est coordinatrice pour la catéchèse des enfants à la paroisse Notre-Dame entre Loire et Allier.
Bonjour Monseigneur. Alors, quel rôle ou quelle place pour les laïcs dans une église synodale de demain ?
Ah, une place prépondérante, importante, et une place toujours en relation avec les autres et avec les prêtres. Mais évidemment, les baptisés sont les premiers missionnaires.
C'est une réponse très claire et très directe. Une dernière question d'Isabelle.
Bonjour Monseigneur. Voilà, j'ai juste une question à vous poser. Qu'est-ce qui fait votre joie d'être évêque actuellement ? Et puisque vous êtes dans la Nièvre, qu'est-ce qui fait particulièrement votre joie d'être évêque de Nevers ?
Alors, vous le disiez, ça fait un an que je suis à Nevers maintenant, et finalement chaque jour comportait une joie parce que chaque jour était une découverte dans ce ministère. Mais récemment, ce qui m'a procuré beaucoup de joie, c'est la célébration de la messe chrismale et d'éprouver cette fraternité sacerdotale avec les prêtres, mais avec le peuple de Dieu tout entier. Et puis les baptêmes de la nuit de Pâques avec ces catéchumènes si nombreux et s'ils sont enthousiastes.
Dans le diocèse de Nevers aussi, vous constatez cette hausse que tous les diocèses français ont mentionnée.
Une augmentation de 100% cette année par rapport à l'année dernière.
Avec également prioritairement des étudiants, des jeunes adultes.
Des jeunes professionnels, oui. Beaucoup de jeunes professionnels, effectivement. Ouais.
Et des jeunes qui reviennent à la foi ou qui découvrent la foi ?
Beaucoup découvrent la foi. Certains ont grandi dans une famille chrétienne, mais sans avoir été baptisés ni catéchisés. D'autres, en revanche, sont bouleversés un peu à la manière de Saint Paul. Il y a une sorte d'expérience mystique très 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 forte, l'expérience de la croix ou de la résurrection, disons plutôt. Et là, pour la nuit de Pâques, j'ai baptisé 5 jeunes adultes dans la paroisse de Decize, des hommes et des femmes rayonnants et qui non seulement entrent dans ce corps que nous formons, mais qui vont être des ferments de vie chrétienne très puissants.
Un dernier mot, Monseigneur Grégoire Drault, parce qu'on vient de célébrer la Pentecôte hier. C'est donc la fin du temps pascal et le retour au temps ordinaire. Alors comment vivre simplement jour après jour ce temps ordinaire qui nous est proposé par la liturgie ?
Alors le temps ordinaire, c'est un temps merveilleux parce que, comme vous le dites, nous venons de célébrer la Pentecôte et donc c'est le temps habité par la plénitude de l'Esprit-Saint. Donc c'est le temps où nous pouvons nous déployer sous le regard de Dieu pleinement.
Merci pour cet élan, pour ce temps ordinaire qui commence. Merci d'être venu pour la première fois, Monseigneur Grégoire Drault, sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Nevers, rendez-vous sur le site internet www.nievre.catholique.fr. Cette émission, bien sûr, est à retrouver sur kto.tv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.
Écoutez KTO Radio. De tout mon cœur.
je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pourquoi Padré. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver avec la question de Marie-Claire. Pourquoi dit-on que l'Église est l'épouse du Christ ? L'Église est dite épouse du Christ de manière analogique. C'est une image qui est utilisée pour signifier l'amour indissoluble, l'alliance inaltérable de Dieu avec l'humanité. C'est une image que nous retrouvions déjà dans l'Ancien Testament, de Dieu qui s'unit à Israël, son épouse, et que nous retrouvons évidemment dans le Nouveau Testament avec le Christ qui accomplit l'alliance parfaite, l'alliance éternelle de ce don qu'il fait de lui-même par amour eh bien, à toute l'humanité. Oui, l'Église est l'épouse du Christ car elle se tourne vers l'époux et l'époux se tourne vers elle pour s'unir, communier dans un amour éternel. Cette alliance que Dieu fait avec nous montre à quel point le Seigneur tient à cette fidélité, tient à nous rendre heureux. J'aime, lorsque je célèbre les mariages, ce moment où les deux époux eh bien, échangent les consentements. Voilà. Je te choisis pour époux, je te choisis comme épouse. Oui, le Seigneur fait choix de nous, nous faisons choix de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur d'ailleurs, c'est moi qui vous ai choisi. Il y a ce choix premier de l'amour de Dieu qui s'accomplit en chacun de nous personnellement, mais également ici de manière ecclésiale. C'est tous ensemble, unis dans une unité d'amour, que le Seigneur nous prend comme épouse. Il y a cette belle citation de Paul qui dit que le Seigneur a tant aimé l'épouse qu'il l'a voulu sainte et immaculée, sans rides, ni taches, ni défauts. Et que pour s'acquérir cette épouse, pour la séduire dans le beau sens du terme, eh bien, il donne tout ce qu'il est. Il se donne lui-même. Alors cette image est pour nous une belle nouvelle, une bonne nouvelle. Nous sommes aimés de Dieu aujourd'hui et pour l'éternité de manière indissoluble. Cette unité, nous la recevons de Dieu et nous nous en